Je vais enchaîner. Je pense qu'on s'en va vraiment ailleurs avec, avec Taolin. C'est un petit peu la preuve jusqu'à un certain point. C'est de plus en plus difficile de parler de parler en termes générationnels, d'après moi, de post-ironie, de post-modernisme, des trucs comme ça. Ben vous allez voir avec ce que je présente à quel point des gens comme des gens de la même génération peuvent avoir des postures absolument opposées dans une dans l'esthétisme, dans la création. Donc moi j'appelais ça facile à dire, Taolin et le détachement modéré. Dire que Richard Yates, donc le dernier roman de Taolin, dire que Richard Yates de Taolin est un roman de l'extrême contemporain ne sera peut-être plus vrai dans quelques années, mais je crois qu'on pourra toujours le décrire comme un roman extrême, dans sa facture et dans son absence d'enjeu du moins. Extrême dans le projet qu'il se propose et qu'il mène à bien, malgré les critiques auxquelles il prête flanc. Extrême aussi dans ce qu'il crée comme tension émotionnelle chez le lecteur qui a de la difficulté à rester indifférent devant tant d'indifférence. C'est un livre angoissant, non pas tant dans ce qu'il raconte que dans ce qu'il montre. Je ne vais pas tenter ici d'en faire une analyse complexe, c'est un livre beaucoup plus difficile d'approche que je le pensais. Je vais plutôt me contenter d'en aborder un des aspects qui m'a le plus marqué, soit son rapport au langage, pour qu'on puisse en discuter de façon plus générale après nos interventions. Je vous décris rapidement l'histoire pour ensuite vous parler un peu de Taolin, de sa posture, s'il en a une, comme artiste ou comme autiste, c'est difficile à dire, et de quelques angles par lesquels il peut être possible d'aborder un livre comme celui-ci. Richard Yates, un titre qui rend hommage ou qui se moque de, c'est difficile à dire, de l'auteur de Revolutionary Road, raconte l'histoire de Haley Joel Osment, pas le vrai évidemment, un jeune écrivain new-yorkais de 22 ans, et Dakota Fanning, pas la vraie non plus évidemment, une adolescente de 16 ans du New Jersey. Les deux se sont rencontrés sur Internet, le lecteur ne sait pas quand ni dans quelles circonstances, puisque le roman commence en plein milieu d'une de leurs conversations sur Gmail Chat et qu'il n'y aura aucun retour en arrière. Ils décident de se donner rendez-vous dans la vraie vie. Ils commencent une relation intime en se cachant de la mère de Dakota Fanning et on suit leur longue et spiralaire conversation par message texte, par courriel ou par chat et leur longue errance dans les rues de New York ou de la ville de banlieue où elle habite. Au début, tout va bien, même si Haley Joel Osment est inquiet et ne veut pas se faire surprendre par la mère de Dakota Fanning, de peur qu'elle appelle la police et qu'il se retrouve en prison pour avoir séduit une mineure. Ils se voient de plus en plus souvent, ils font des activités, ils parlent au téléphone, mangent dans des restaurants, ils volent des vêtements chez American Apparel, volent des objets de valeur pour les revendre sur eBay, se parlent et sont silencieux, se touchent et font du sexe. Mais de fil en aiguille, les choses s'enveniment entre eux et Haley Joel Osment commence à se plaindre à Dakota Fanning de ses mauvaises habitudes, de son manque de discipline, de son incapacité à respecter ses engagements. Il n'est plus certain d'avoir envie d'être avec elle, il se demande pourquoi elle ne lui plaît pas autant quand il est avec elle que quand il parle sur le chat. Il lui écrit dans un long courriel, alors je vais citer, c'est quand même long, mais j'avais décidé de citer d'essayer de citer le plus possible le texte parce que évidemment, mon résumé ne donne pas du tout une bonne idée de ce que c'est le livre. Donc, il dit « But then you were late to the station, and then you didn't want to go to the ledge. When we got to the buses, you didn't want to go on the buses. I walked around trying to figure out if I should get back to New York. When we got off the train at Hoboken, you didn't take off your headphones even when you tried to ask me how to buy a ticket for the PAT train. I really hate that. During this time, I would always like you more when we talked on Gmail chat and not when I saw you in person. I'm horrible for caring so much about weight, but obviously I need to be physically attracted to someone or else some part of the relationship is not fulfilled. And also I talked about what I think when I see an overweight person in a relationship. So after seeing you, I would always think, I'm not going to be with her anymore. But then we would talk on Gmail chat and text messages and I would like you again. Haley Joel Osment devient de plus en plus exigeant par rapport à l'attitude de Dakota Fanning qu'il juge hypocrite et négative. Il déménage dans la même ville et il vit parfois chez Dakota Fanning après que sa mère ait découvert leur relation et ait été obligée de l'accepter. Quand ils ne sont pas ensemble, ils chattent et se parlent au téléphone. Haley Joel Osment n'endure pas les mensonges de Dakota Fanning à propos de sa boulimie et de ses vomissements. Il lui dit de se prendre en main, d'arrêter de mentir, de lui décrire tout ce qu'elle fait à la minute près entre certaines heures. What did you do between 12 and 4? He said after about 10 seconds. I told you everything, said Dakota Fanning. You worked for 30 minutes, then went to the store for an hour. What about the other 2 hours? I told you everything. I didn't lie. That's all I remember. Why are you crying? Said Haley Joel Osment, pardon. I didn't lie, said Dakota Fanning. What did you do for 2 hours? I bullshitted around a lot. I told you what I did. Et ça se poursuit comme ça jusqu'à une absence totale de climax à la fin, évidemment. Le livre est en fait délibérément construit sur une série d'anticlimax durant lesquels les personnages ne vont pas se suicider malgré leurs propos, ne vont pas se faire arrêter malgré leur vague angoisse, ne vont pas non plus évoluer. De dire qu'il n'y a aucun changement dans leur psychologie, par contre, aussi réduite soit-elle, serait faux, et je vous invite fortement à lire le livre pour bien voir à quel point c'est difficile d'en dire quoi que ce soit d'englobant. Taolin est un jeune blogueur écrivain né en 1983 qui est surtout connu pour sa façon peu orthodoxe de faire son autopromotion sur le net. C'est-à-dire avec brio, dans une connaissance parfaite et exemplaire des potentialités des réseaux sociaux et, sans vergogne, dans la profusion et à la limite dans la surenchère. Ce qui fait de lui probablement l'écrivain de sa génération le plus adulé dans certaines sphères et le plus honni dans d'autres sphères. Je pense qu'on pourrait déjà parler de culte. Lynn multiplie les interventions sur les réseaux sociaux, les blogs et même les sites de magazines conventionnels afin d'attirer l'attention sur sa personne et sur son œuvre. Par exemple, lors de l'écriture de Richard Yates, il a lancé une enchère sur Twitter et Facebook dans le but de trouver un mécène qui pourrait le financer durant le processus et ça a marché. Le contrat rédigé par Lynn a été affiché sur son site internet, sur son blog, 6 000 $ de prêt à rembourser sur les éventuels droits d'auteur. Venant de Brooklyn, gradué de l'Université de New York, il est surtout associé à la culture hipster, entre autres à cause de l'ambiguïté de sa posture intellectuelle, très artsy et très au courant. On pourrait dire au courant, là, pour reprendre le terme. Au courant. J'aime ça faire ça. Ça paraît. D'un côté, complètement désabusé, impossible à cerner, comme je disais tout à l'heure, à la limite de l'autisme en entrevue, et de l'autre, obsédé par le fait d'être connu, de se montrer et de faire parler de lui. Taolin est pour moi l'écrivain qui représente le mieux la complexité des enjeux qui entourent la culture contemporaine, d'abord parce qu'il les évacue délibérément de son travail et de son esthétique, et ensuite parce qu'il nous glisse entre les doigts dès qu'on tente de lui accoler une définition ou de le caser dans une catégorie trop précise. Son œuvre, et par là j'entends l'ensemble de sa présence médiatique, que ce soit en livre ou sur Twitter, est à la fois indigeste et essentielle, et c'est ce qui nous oblige à en parler. Même si, encore une fois, c'est impossible de tenir un quelconque discours sur un objet qui nie à ce point l'efficacité de tout discours. Tout le monde a vu passer cette image virale sur Facebook montrant une série de choses qu'on faisait « in the old days and now ». D'un côté, on voit les personnages dans le bon vieux temps, « listening to music »,« chatting with friends »,« watching movies », complètement excités de faire ces activités, et de l'autre côté, représentant le monde actuel, on voit la même image répétée, exactement pareil, d'un bonhomme allumette avec un visage sérieux, devant son écran avec des écouteurs sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous vu passer cette image, on l'a fait circuler à notre tour parce qu'on la trouvait très drôle et très représentative jusqu'à un certain point. L'espèce de neutralité extrême représentée par le visage inexpressif du personnage était très juste et c'est ce qui paradoxalement la rendait hilarante. On s'est tous esclaffés et on a partagé le lien pour que les autres le voient et rient et partagent à leur tour. Personnellement, je suis souvent crampé quand je suis devant mon écran. Mon expression faciale change de minute en minute, mais ce qui m'a fait rire dans cette image précise, et une autre aussi que vous avez peut-être vue, qui montrait ce même bonhomme allumette de face, avec les yeux sérieux, une bouche droite, le menton à côté, sur la main gauche et la main droite sur la souris, avec la légende « You at this exact moment ». Ça, je l'ai trouvé très drôle. En tout cas, ce qui m'a fait rire, donc, c'est précisément la représentation de ce moi impassible et sérieux face à mon écran d'ordinateur. L'adjectif « serious » pour décrire le visage de quelqu'un est un de ceux qui revient le plus dans la narration du roman Richard Yates, suivi de près par « neutral ». Les deux personnages, quand ils parlent ou quand ils chattent sur Gmail, se décrivent eux-mêmes comme « sad »,« depressed »,« happy », »,« fucked up », »,« suicidal ». Mais la narration se veut beaucoup moins expressive. « She looked at him with a neutral facial expression » est un exemple typique de description émotionnelle. Le fait de parler de « facial expression » au lieu de « face » est aussi caractéristique. C'est une manière d'enlever leur humanité mélodramatique aux sujets qui sont décrits, de leur mettre un masque taillé sur mesure par les conventions sociales d'un discours qui a perdu toute qualité communicative. Autrement dit, dans le monde tel que décrit dans Richard Yates, la « blank face » est l'unique visage possible parce que toute expression, toute autre expression est une tentative de signification vouée à l'échec par défaut. Signifier, vouloir signifier quelque chose est impossible. La fin des grands récits nous l'a démontré, l'échec des utopies nous l'a prouvé, l'histoire, la politique, les médias, le net ne cessent de nous répéter. Je tiens à préciser que ce que je viens de dire est évidemment une interprétation de ma part, puisqu'en aucun cas le livre ne tombe dans une quelconque justification ou explication de ce qu'il met de l'avant, comme ça aurait pu être le cas chez des écrivains, de la génération précédente, comme Bret Easton Ellis ou Douglas Copeland, à qui on compare beaucoup Taolin. Chez lui, même devenir un tueur fou qui décapite des prostituées est considéré comme une forme d'engagement social illusoire. Un cri adolescent désespéré comme « fuck the world » ne peut s'écrire qu'entre guillemets parce qu'il n'est que la reproduction d'une sincérité pathétique. Les personnages regardent donc le monde se débattre autour d'eux et se sentent « tristes » entre guillemets parce que les gens n'ont pas encore compris qu'il était inutile de vouloir dire quoi que ce soit. On peut parler, certes, on peut écrire, mais il faut parler pour parler et écrire pour écrire. Parler et écrire ne peuvent être autre chose que des fins. La communication n'est pas un tremplin, mais une arène fermée, une joute dans laquelle on peut dire « I don't know » à propos de n'importe quoi, de ce qu'on ressent à un moment précis ou de ce qu'on pense de la situation au Moyen-Orient, mais jamais « what do you mean ?» Parce que d'avouer ne pas avoir compris l'autre, dans toutes les strates de son discours, ironique ou non, ce serait laisser croire qu'il y avait quelque chose à soutirer de son affirmation. Les deux protagonistes ont une expression pour décrire le genre de personne un peu pathétique qui n'a pas encore compris ça. Party Girl. Je cite le roman. Et là, je l'ai dit avec beaucoup trop d'émotion, d'ailleurs, Party Girl. Hein. Il faut pas dire ça. J'ai dit Party Girl, c'est pas comme ça qu'il prononce. Haley Joel Osment said Party Girl, which was a term they had for people who did not speak in a quiet monotone and were not severely detached. Inanimate objects and situations and animals and boys could also be party girls. Richard Yates est un roman d'une vacuité intellectuelle pure au sens où ce qu'il met en scène, c'est une dissolution complète de ce qu'on considère comme la force du langage ou la puissance de la littérature à dégager et à explorer des émotions à travers le langage. Ce n'est pas une explication, mais plutôt une démonstration. Et c'est en cela que c'est peut-être un bon livre, un livre réussi au moins. Qu'il soit celui de la narration ou celui des protagonistes, le langage ici est lisse, plat, exclusivement descriptif au sens où on le regarde et on l'observe comme de loin, sans focalisation, sans pouvoir s'en emparer. On s'en sert pour dire des choses qui n'ont pas d'autre but que d'être dites parce qu'elles n'ont jamais été dites ou parce qu'elles ont déjà été dites tant de fois qu'elles ne veulent plus rien dire. Bon, j'avais une longue citation, mais je vais la passer, là. Mais en gros, Haley Joel Osment dit à Dakota Fanning pour convaincre sa mère de la laisser aller à New York pour le rejoindre. Il lui dit quelque chose comme tell her she puts stress on herself by trying to control you instead of giving you freedom, which is what America is about, freedom. Puis là, elle répond, I laughed and drooled a little, said Dakota Fanning. Tell her American and Canadian soldiers are fighting for your freedom and she's taking that God-given right away from you. Does she believe in God? En deçà ou au-delà de ce langage blanc qui est donc le symbole même de la superficialité, mais qui reste tout de même la seule façon d'appréhender l'autre, un total détachement émotif face à ce qui les entoure devient la posture obligatoire des personnages. Dans ce monde-là, tout est inversé. La profondeur ou la gravité deviennent des cul-de-sac et la superficialité devient la valeur suprême parce qu'elle est la seule valeur qui n'a pas de prétention. Elle ne cherche ni à changer les autres, ni à les juger. J'aurais aimé terminer en m'interrogeant sur ce que peut bien venir faire Richard Yates dans tout ça, mais je préfère me taire et laisser parler Taolin lui-même, donc dans une entrevue qu'il a donnée à la sortie du livre. I didn't know what to title it, and for a while it was titled Second Novel. After that, I titled it Werner Herzog. And then that changed to Richard Yates. And now I view the title as a low-level non-sequitur in the same manner that if I typed a really long email to someone and finished it and went to the subject line and, like, didn't know what to type for the subject, I would just intuitively pick something from inside the email so that the other person hopefully would sense that I had titled it intuitively instead of doing it in some other way that would have defined the entire email. With a tone or one clear subject. Also, if you're like a PhD student in English
and you look at each instance that Richard Yates is mentioned in the book, it has sort of its own narrative that one could analyze and write literary criticism about.
Criticism about. Merci, merci, Taoline.